tous, mon nom est Anne-Elisabeth Côté, je suis orthopédagogue et personne ressource à la Quetta Estrie. Aujourd'hui, on a le plaisir d'accueillir Justine Belval, qui est orthopédagogue au Salésien, l'école Salésien à Sherbrooke, une école secondaire. Alors, Justine, parle-nous un peu de ton contexte d'intervention actuel.
Je suis orthopédagogue au secondaire, comme tu l'as dit si bien. En fait, je travaille dans deux milieux différents, dans deux écoles privées. Donc, je ne suis pas employée ni rémunérée par les écoles. J'offre vraiment un service qui est privé, mais j'ai un bureau dans deux écoles là, ici à Sherbrooke. Donc, c'est un contexte quand même là, qui est différent parce que le service est privé. Donc, c'est aux frais des parents. Alors, mon rôle ne veut pas être un peu différent là, que dans une école publique ou encore dans une école primaire. Mais sinon, en termes de travail, je rencontre les élèves sur une base régulière en individuel.
Alors, dis-nous, Justine, comment, dans ton milieu, est-ce qu'on détermine les besoins des élèves et surtout, qui peut avoir accès aux outils d'aide technologique?
Oui, bien, faut comprendre d'abord que les écoles privées ne gèrent pas tous les besoins, les outils d'aide technologique des élèves de la même façon. Donc, déjà, moi, je suis dans deux milieux différents. Il n'y a pas une école qui fonctionne de la même façon. Par exemple, dans une école, ça peut être la direction qui va déterminer les besoins avec l'équipe école. Dépendamment de qui est dans l'équipe école, ça dépend là, des intervenants. Ici, au Salésien, on a deux enseignantes ressources, une pour chaque cycle. Donc, ils vont être amenés à déterminer les besoins des élèves. On peut les référer à moi aussi ou me demander mon avis à l'orthopédagogue ou encore la direction là, pédagogique ou la direction là, qui est à l'aide pour la réussite. Donc, ça dépend vraiment de chacune là, des élèves. Souvent, ben, c'est sûr que la demande va partir, là, l'analyse de besoins de l'enseignant. Veux pas, c'est le premier qui est avec l'élève. Donc, il va d'abord lui observer les besoins, puis après ça, on va déterminer là, la bonne ressource ou le bon moyen là, pour aider l'élève. Pour ce qui est des outils d'aide technologique, en fait, tous ceux qui ont des besoins en lecture et en écriture dans une école privée peuvent avoir accès à ces outils-là et aussi à un plan d'intervention. Mais encore là, ça dépend c'est quoi le fonctionnement, qu'est-ce qui est demandé dans chacune des écoles. On sait qu'au public, par exemple, on n'a pas besoin d'avoir un diagnostic pour pouvoir mettre en place là, des mesures d'aide. Mais dans les écoles privées, chaque école adapte un petit peu là, ça. Donc, par exemple, dans une des écoles où je travaille, on va demander un diagnostic avec un rapport d'évaluation pour avoir accès à des mesures et à des outils d'aide technologique. Dans une autre école, on n'attendra pas d'avoir un diagnostic. On va mettre en place des outils d'aide technologique pour les élèves qui ont des besoins en lecture ou en écriture. Sans avoir un diagnostic, mais on garde toujours en tête, on avertit beaucoup les parents avec ça, qu'une fois rendu au cégep, on a encore besoin, dans certains établissements, d'avoir un diagnostic et un rapport pour avoir des outils, même si l'élève les a utilisés au secondaire. Donc, il faut toujours garder en tête qu'on peut se faire demander à l'entrée au cégep là, un rapport d'évaluation, mais au secondaire, dépendamment des écoles, on peut avoir des outils d'aide technologique si on a des difficultés en lecture, en écriture, sans avoir un diagnostic de trouble d'apprentissage.
Alors, Justine, dis-nous comment ça se déroule ou ça devrait se dérouler l'appropriation, l'implantation des outils d'aide technologique là, en termes de temps là, que ça peut prendre pour l'élève là, à bien utiliser ces outils, puis ce serait quoi les principales étapes?
Mais pour ce qui est de l'appropriation des outils d'aide technologique, en fait, ça devrait se dérouler là, sous la supervision soit d'un orthopédagogue ou encore d'une personne qui est habilitée à enseigner l'utilisation des logiciels. Par exemple, ce qui est fait souvent, c'est qu'on va installer les logiciels, on va expliquer rapidement aux élèves comment s'en servir, mais il n'y a pas de formation, on ne va pas plus en profondeur, on laisse l'élève avec ses outils, voilà, débrouille-toi, ça va bien se passer. Donc, moi, je pense que l'élève qui reçoit un outil d'aide technologique devrait vraiment recevoir une formation appropriée pour apprendre à s'en servir. Donc, comme c'est un défi supplémentaire pour les élèves qui ont des défis d'apprentissage, il faut vraiment faire un enseignement explicite parce que sinon, ils vont pas voir comment l'outil peut les aider à améliorer leur lecture ou leur écriture. Ils vont pas voir c'est quoi les bénéfices que ça peut leur apporter. Donc, souvent, ils sont pas plus motivés ou ils n'utilisent pas leurs outils. On me rapporte souvent ça de la part des enseignants. « Ah, cet élève-là, il ne veut pas utiliser son outil, il ne veut pas ouvrir son ordinateur, il dit que ça ne l'aide pas. » Mais souvent, c'est parce qu'en arrière de ça, il n'y a personne qui lui a montré comment l'utiliser. Dans un des milieux où je travaille, d'emblée, quand il y a un plan d'intervention, souvent l'école va demander à ce qu'il y ait deux rencontres en orthopédagogie pour que l'élève apprenne au moins le minimum pour pouvoir se servir de ses outils, que ce soit un logiciel d'aide en lecture ou en écriture. Ça dépend vraiment aussi de l'élève puis de ses besoins. Il y en a qui vont arriver au secondaire, ils n'ont jamais utilisé d'ordinateur. Il y en a qui utilisent des outils technologiques déjà depuis longtemps, mais on en met des nouveaux. Donc, ça peut varier, mais je pense vraiment qu'il faut recevoir une formation au début de l'implantation, que ce soit au primaire ou au secondaire ou au cégep. Après ça, pendant l'année. Et ensuite, après, à chacune des années suivantes, il devrait y avoir un petit rappel. Parce que sans le rappel, il y a souvent certains oublis. Ou il y a des nouvelles fonctions qu'on peut apprendre à l'élève quand il est rendu assez vieux. Par exemple, au deuxième cycle, au secondaire, on peut aller travailler au niveau de la structure de la phrase avec Antidote. On peut vraiment amener l'élève à travailler la forme de son texte. Donc, il devrait avoir plusieurs étapes, en fait, pour être capable de bien maîtriser un outil d'aide technologique. Puis après ça, dépendamment des logiciels, il y en a qui sont plus simples à utiliser que d'autres aussi. Donc, la formation, il n'y a pas un temps nécessairement ou un nombre de rencontres à avoir, mais je pense que c'est quelque chose qui doit être répétitif un peu dans le temps, ou puis on doit apprendre tranquillement, selon les apprentissages qu'on fait, là, comment se servir des outils technologiques.
Mm-hmm. Une bonne formation, un bon suivi, c'est important. Hein, certains parents disent « Pourquoi l'outil ne semble pas aider mon enfant? » On a une piste de réponse, là. Est-ce que tu veux nous parler davantage des facteurs qui nuisent à l'appropriation de l'outil et puis des facteurs qui seront des facteurs de réussite, qui vont vraiment venir soutenir l'appropriation des outils d'aide technologique?
Bien, ça vient suivre un petit peu avec la question juste avant, c'est-à-dire que si le parent se demande pourquoi l'outil ne semble pas aider mon enfant, il peut avoir plusieurs facteurs, mais le premier facteur, je pense, c'est parce qu'il ne sait pas comment l'utiliser. Dépendamment si l'enfant reçoit l'outil au primaire ou au secondaire, une des premières choses qui est importante, c'est la maîtrise de l'ordinateur. Déjà, si l'enfant n'a jamais ou presque utilisé un ordinateur, puis on lui demande d'utiliser l'ordinateur pour écrire et lire, c'est sûr que s'il y a de la difficulté à se retrouver sur l'ordinateur, à l'utiliser, l'objet en tant que tel, ça va rendre l'utilisation des logiciels plus difficile. Ensuite, un des principaux obstacles, c'est aussi le clavier, donc la maîtrise du doigté. Ça, c'est problématique au secondaire parce que les élèves écrivent très lentement. Ils cherchent leurs lettres, ils vont utiliser un doigt ou juste une main. Alors ça ralentit beaucoup le travail, puis ça peut être décourageant parce qu'ils vont dire « ben ça va bien plus vite quand j'écris ». Effectivement, ça va plus vite, mais tu fais beaucoup d'erreurs. Donc, on est un petit peu là, pris là-dedans avec le fameux doigté. Donc, on me demande souvent « qu'est-ce que je peux faire pour aider mon enfant à développer son doigté? » Donc, il existe des logiciels là, d'entraînement qu'on peut utiliser, mais ça, c'est un obstacle, là, le fameux doigté. Sinon, il y a aussi, comme je disais tantôt, les outils qui sont installés mais qui n'ont pas été expliqués. Souvent, aussi, c'est que l'élève ne veut pas être différent. Donc, il ne veut pas l'utiliser parce qu'il a peur du jugement des autres. Donc, si l'outil ne semble pas aider mon enfant, c'est peut-être parce qu'il ne l'utilise pas suffisamment. Donc, si l'élève ne s'approprie pas l'outil, c'est sûr qu'il ne va pas être porté à l'utiliser. Ensuite, je pense qu'un autre des principaux obstacles, c'est la démarche de correction, par exemple, avec un outil, un autocorrecteur. On va dire à l'élève, utilise l'autocorrecteur, mais on ne lui parle pas de la démarche de correction qu'il faisait déjà à l'écrit, qui est transformée. Hein, on peut l'adapter pour qu'il soit capable encore de suivre des étapes pour utiliser les outils. Donc, souvent, la démarche ne vient pas avec le logiciel, donc il ne sait pas trop comment s'y prendre. Donc, naturellement, ces obstacles-là vont faire en sorte que la réussite ou non de l'implantation des outils d'aide technologique. Mais je pense que dans les facteurs de réussite, il faut déjà que l'élève prenne conscience de ses difficultés. Puis qu'il soit, qu'il ait envie de mettre des choses en place pour réussir puis s'améliorer. Fait que déjà, s'il est motivé, il a pris conscience de ses difficultés puis qu'il voit que l'outil l'aide, ça va venir vraiment faire un changement pour lui. Donc, c'est sûr qu'avoir la volonté puis la motivation de découvrir des nouvelles stratégies, ça va faciliter la mise en place de l'outil puis son utilisation. L'implication du jeune, c'est sûr que s'il ne veut pas se l'approprier l'outil, il ne veut rien savoir, non, je ne veux pas l'utiliser, encore une fois, s'il n'est pas impliqué lui-même dans la démarche, ça va être difficile de le faire utiliser. Puis je pense que le dernier des facteurs qui est super important, c'est l'implication des parents. Il faut informer les parents sur le fonctionnement de l'outil, puis à quoi sert l'outil. Souvent, les parents n'ont aucune idée de comment ça fonctionne, quand ils peuvent l'utiliser. Donc, je pense que si on les met dans le coup avec l'élève, puis qu'ils demandent à leur enfant de l'utiliser aussi à la maison, de lui montrer comment ça fonctionne, on va avoir on va être capable de faire en sorte que l'élève ait envie d'utiliser l'outil et que ça soit une réussite pour lui, que ça l'amène à progresser.
Alors, certains vont dire que l'utilisation des outils d'aide technologique, c'est comme un peu de la triche, puis que c'est pas équitable pour les autres. Qu'est-ce que vous répondez? Et puis, j'aimerais aussi savoir, est-ce que les outils d'aide technologique, ça permet aux élèves de développer les mêmes compétences que leurs pairs en bout de ligne?
Bon, tout d'abord, pour ce qui est de la question de est-ce que c'est de la triche parce que c'est pas équitable, ça c'est quelque chose qui revient très souvent. Il faut d'abord comprendre que l'élève qui a un trouble d'apprentissage, il réussit pas à son plein potentiel. L'élève qui est assis à côté de lui, lui, il a accès à tout son plein potentiel. Donc, il est capable de réussir sans avoir, oui, il peut vivre certaines petites difficultés, mais pas de grandes difficultés comme quelqu'un qui a un trouble d'apprentissage. Donc, c'est pas de la triche parce que ça permet à l'élève, ces outils-là, de l'amener à réussir à ce plein potentiel-là qui, autrement, il arriverait pas. C'est un peu comme quelqu'un qui a besoin de lunettes, c'est pas de la triche parce qu'il voit mieux, c'est parce que sans ses lunettes, il voit pas bien. C'est un peu la même chose. Donc, c'est que sans ces outils-là, l'élève, il arrive pas à faire la démonstration de ses capacités. Donc, ça lui permet, moi, je pense que c'est plutôt équitable, parce que ça lui permet d'avoir les mêmes opportunités d'apprentissage que les autres. Il arrive comme ça à être au même niveau puis à partir aussi sur les mêmes bases. Donc, c'est pas une triche, c'est pas un plus. Des fois, il y en a qui vont dire ça. Il est avantagé, lui, il a un outil d'aide technologique ou il est avantagé, il est suivi en orthopédagogie. S'il vient me voir, c'est pas parce qu'il est avantagé, c'est parce qu'il part vraiment plus bas que les autres, qu'on essaie de l'amener au moins à la base pour qu'il soit capable de suivre le rythme des apprentissages, là, comme tout le monde. On sait que l'école n'est pas nécessairement adaptée à tous, donc il faut faire en sorte que ces élèves-là ont des mesures adaptées pour être capables de suivre au même rythme puis d'avoir les mêmes accès aux mêmes apprentissages. Pour ce qui est de développer les mêmes compétences que leur père, c'est sûr que les outils d'aide technologique, vont aider les élèves qui ont des difficultés à développer les mêmes compétences. On leur donne accès aux mêmes apprentissages, donc, veut pas, ils vont être capables de développer leur raisonnement, ils vont être capables de développer leur compréhension, pareil comme les autres élèves. Mais ils vont avoir à fournir plus d'efforts, puis à compenser, puis ces outils-là, justement, ils viennent compenser la difficulté. Donc, encore une fois, c'est qu'on offre les mêmes opportunités à tous. Donc, les élèves qui ont des outils d'aide technologique, ils vont avoir plus de facilité que s'ils n'avaient pas d'outils ou de stratégies, justement, à développer les mêmes compétences que leur père.
C'est vraiment un souci d'équité, mais oui. Maintenant, comment ces outils-là, ils peuvent favoriser la confiance en soi et la motivation des adolescents que tu suis?
La plupart d'entre eux, je pense que les outils d'aide technologique arrivent à leur faire vivre des réussites, enfin! Souvent, il y a des élèves qui n'ont pas... qui vont être en échec, qui travaillent fort, ils ont de la difficulté, les réussites sont pas là, ils accumulent les échecs, ça a toujours été très difficile d'année en année, ça progresse pas beaucoup. Puis quand on met en place des outils d'aide technologique, ben l'élève va vivre des réussites. Je vais parler de la fameuse dictée. Souvent, cette dictée, les dictées sont données, bon, au primaire, les dictées, c'est à chaque semaine, puis on a des élèves qui n'arrivent jamais à réussir ces dictées-là. Même au secondaire, les dictées, c'est encore des choses qui une évaluation qui est faite, et puis l'élève n'arrive jamais à la réussir, la dictée. C'est décourageant pour eux, mais quand on vient supporter les difficultés puis que l'élève, par exemple, a accès à un prédicteur de mots, bien, tout d'un coup, l'élève réussit sa dictée. Il vit enfin une réussite. Alors ça vient booster la confiance en soi. Et puis, il est vraiment motivé pour la prochaine. Puis il dit, bon, enfin, j'ai réussi, je suis capable. Donc ça vient vraiment, là, à ce niveau-là, là, le fait de vivre des réussites, ça favorise beaucoup la confiance en soi et la motivation. Je pense aussi que un des gros points là, que ça peut faire, que ça peut amener, là, que ça peut venir soulager, en fait, c'est la diminution de la surcharge cognitive. L'élève va pouvoir enfin, avec son outil, se concentrer sur d'autres apprentissages et progresser. Donc, il n'est plus juste, par exemple, dans le décodage de sa lecture, il va être enfin dans la compréhension de sa lecture. Il va enfin pouvoir aller plus loin, faire des liens, finir de lire son roman, par exemple. Donc, en enlevant comme ça là, la surcharge cognitive, encore une fois, l'enfant est capable d'aller plus loin, de continuer, de progresser. Donc, veut pas, ça va avoir un impact sur sa motivation. Je pense que le dernier point sur la confiance en soi et la motivation, en ce qui me concerne dans mon milieu, ça permet les outils d'aide technologique. En fait, ça offre l'occasion, ça permet à l'élève de se découvrir des compétences, d'avoir enfin le sentiment de « Hey, je suis capable d'écrire, je suis capable de comprendre ce que j'ai lu. » Je pense que ce sentiment-là de se trouver bon, avec l'utilisation de l'outil qui est venu compenser sa difficulté, ça vient vraiment là, faire un effet de « wow, ok, je suis capable, donc la prochaine fois, bien, je vais continuer, je vais persévérer, la prochaine fois, ça va être encore mieux, puis je vais pouvoir appliquer ça dans mes autres matières ». On parle souvent de lecture et écriture, mais au secondaire, veut pas, ben même au primaire, la lecture, ça vient toucher toutes les autres matières. Donc, c'est souvent les élèves qui vont avoir la difficulté en histoire, par exemple. Donc, on va leur permettre, avec l'outil d'aide technologique, de se faire lire les questions pendant un examen d'histoire ou encore de répondre à l'examen à l'ordinateur. Ils peuvent réécouter leurs questions et là, tout d'un coup, ça débloque. Ils arrivent à faire des liens, ils comprennent mieux, ils sont capables de revenir sur leurs questions puis de structurer des phrases qui font du sens pour que l'enseignant comprenne ce qu'il a voulu dire dans son explication d'un fait historique, par exemple. Donc, ça vient vraiment développer le sentiment de « je suis bon, je suis capable ». Donc, ils ont un sentiment de compétence.
Alors, on sait que, bon, une fois que les outils d'aide technologique sont implantés, il reste un autre défi d'assurer que la transition entre le primaire, le secondaire et la transition entre le secondaire et le postsecondaire se fasse de manière harmonieuse. Alors, comment est-ce qu'on peut assurer des transitions là, qui seraient plus efficaces?
Premièrement, pour ce qui est de la transition primaire-secondaire, c'est sûr que plus tôt l'élève va être formé à utiliser un outil d'aide technologique, bien, plus vite il va se l'approprier puis il va être capable de l'utiliser de façon autonome. Je pense que ce qui est important dans la transition primaire, c'est l'autonomie. Des fois, l'élève va l'utiliser depuis longtemps, quatrième année, des fois, au primaire. Des fois, c'est l'entrée au secondaire. Ça vient avec l'entrée au secondaire. Donc là, l'élève reçoit ses outils à l'entrée au secondaire. Donc là, on va le former directement à l'entrée du secondaire, mais c'est sûr que plus la formation est faite tôt, plus ça va être facile pour l'élève parce qu'on sait qu'avec l'entrée au secondaire, il y a d'autres défis, il y a d'autres adaptations. Donc, si l'élève peut bien maîtriser déjà l'outil qu'il a utilisé au primaire, s'il est capable d'utiliser un ordinateur, ça va venir là, faciliter la transition. Ensuite, il faut autant dans la transition primaire, secondaire que secondaire, post-secondaire, il faut s'assurer que le plan d'intervention de notre enfant est à jour. Ça, je pense que c'est important qu'il y ait eu une révision par l'école, avec l'équipe école, les parents, en fin d'année, pour avoir l'heure la plus juste possible. Puis s'assurer aussi que tout ce que l'élève a utilisé est bien inscrit au plan d'intervention, parce que des fois, on découvre des choses rendues au mois de novembre ou au mois de décembre que l'élève utilisait, puis ce n'était pas noté nécessairement quelque part ou dans le plan d'intervention. Donc, pour les deux niveaux, que ce soit l'entrée au primaire ou l'entrée au cégep, d'avoir un plan d'intervention à jour, c'est très aidant pour l'école suivante. Après ça, c'est un petit peu différent dans les processus, par exemple, pour les écoles privées et les écoles publiques. Dans l'école privée, le dossier de l'élève va suivre. Donc, à ce niveau-là, la prochaine école, l'école secondaire, va avoir entre les mains le dossier. Donc, s'il y a eu des évaluations, des observations, tout ça est dans le dossier. Par contre, pour ce qui est des écoles privées, l'information ne passe pas directement. C'est vraiment aux parents à informer des difficultés de son enfant et des outils d'aide technologique qu'il utilise. Ça peut être fait au moment de l'inscription ou encore avant, une fois qu'il est admis à l'école, ou dès la rentrée scolaire, pour qu'on puisse mettre en place les outils d'aide le plus rapidement possible. Ça arrive encore qu'on on découvre que l'élève utilise un ordinateur avec des outils technologiques tard, après Noël. Donc, c'est vraiment important, puis c'est vraiment le rôle du parent, parce que ça ne va pas se faire là, entre les écoles, l'école publique et l'école privée. Donc, si on est déjà averti que l'enfant utilise des outils d'aide technologique, ben, on va pouvoir vraiment installer les logiciels, le former, puis s'assurer qu'il parte là, du bon pied là, dès le début de l'année. C'est un petit peu la même chose pour ce qui est la transition secondaire-post-secondaire. Si on veut que ça se passe bien, ben, il faut déclarer qu'il y a des difficultés puis qu'il y a un plan d'intervention là, dès l'inscription et une fois après être admis pour que dès l'entrée au cégep, l'élève puisse avoir accès à ses outils. Il faut aussi s'assurer des prérequis puis du fonctionnement. Qu'est-ce que ça prend autant pour l'école secondaire que pour l'école que pour le cégep? Est-ce que j'ai besoin de fournir un rapport particulier? Est-ce que j'ai de quoi l'école a besoin ou l'établissement a besoin là, pour mettre en place les outils d'aide technologique là, pour mon enfant?